Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Rentrée, vous avez dit rentrée. Dans la presse, on appelle ça un marronnier. En général, cela donne des articles assez convenus sur la nouveauté de la rentrée, le stress des petits et parfois des grands. Et si nous prenions cette actualité par un autre biais, si ensemble on essayait d'aborder la rentrée côté coulisses, vue d'en bas ou du dedans? C'est un peu ce que nous proposent les films de ce jour, un film sur la rentrée ou presque d'une classe d'infirmières, profession aussi noble que malmenée. Un film à hauteur d'enfant, dans la peau d'un petit gars qui trace sa route comme il peut, au milieu de parents mal aimants. Un film sur une rentrée divine, celle d'une religieuse décidée à entrer en relation avec une petite fille donnée pour perdue, bref, pour voyager. Restez avec nous. Cette émission Vivante Église, donc le grand écran en cette rentrée. Cette semaine, j'étais tous les jours content de faire une émission de radio. Je me suis dit, mon Dieu, c'est fou quand même, quel change j'ai. Rassurez-vous, c'est pas tous les jours le cas. Paul Dima, Monsieur Cinéma, je vais me faire tirer les oreilles. Monsieur Cinéma au Coteau Païs, centre jésuite dans le sud-ouest. Bonjour Paul.
Bonjour Emmanuel et bonjour à tous.
Louis-Marie Solaire, producteur de N'oubliez pas l'ouvreuse sur cette antenne, mercredi 19h. Bonjour Louis-Marie.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Et vous êtes tous les deux responsables de Ciné Parole, pour rappel, ce ciné-club mensuel, hein, c'est ça, au cinéma L'ABC à Toulouse, cinéma d'art et d'essai, où vous proposez, Paul, peut-être en cette rentrée, vous pouvez nous redire ce que vous proposez une fois par mois à l'occasion de deux rencontres.
Alors, deux rencontres avec un même film, une l'après-midi, une en soirée, où on prend le temps avant la projection du film de présenter rapidement le réalisateur. Et ensuite, le visionnement du film, et après, un temps de débat, de partage, à partir de ce que nous a inspiré le film, les questions qu'on se pose. Et on fait des va-et-vient permanents entre le film, les questions qu'il soulève, les points de vue, et on s'enrichit des points de vue des uns des autres. Voilà.
Alors j'aurais peut-être une autre question. Vous nous aviez expliqué l'année dernière, à plusieurs reprises, en fait, le pourquoi de ce ciné-débat. Évidemment, le mieux, c'est de venir. Mais si on a envie de faire le même exercice, on va dire, avec ses proches, comment on peut essayer de faire ça? Se retrouver autour d'un café, se poser une autre question que... alors, est-ce que tu as aimé ou pas,
c'est oui, ça? Oui, c'est ça. Il faut sortir de ses plaisirs ou déplaisirs. Il faut rentrer vraiment en dialogue avec le film. Et puis, dire, eh bien, qu'est-ce que ça suscite chez nous? Échanger ses points de vue. Et on voit que plus on reste en dialogue, proche avec ce qu'on a vu, on a plein de choses à découvrir parce qu'on n'a pas tous le même regard.
Voilà, en tout cas, c'est vrai que ça donne envie de prendre le temps de parler après avoir vu un film. Alors, au menu aujourd'hui, le film à l'affiche, c'est De chaque instant, de Nicolas Philibert. On va en parler dans un instant. Voilà, c'est donc, on va dire, une classe d'infirmières filmée au plus près.
Et d'infirmiers.
Et d'infirmiers, pardon. Le chef-d'œuvre humaniste donc, de ce mois-ci, c'est Les 400 coups de François Truffaut. Et Marie Hartin de Aidez-moi Louis-Marie.
Jean-Pierre Améris.
Jean-Pierre Améris. On va commencer donc avec De chaque instant, et puis comme à chaque fois, on commence par la bande-annonce, ça va nous mettre dans le bain, et puis on va parler de ce film.
Attention! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Très important. 8, 11. L'infirmier doit écouter, examiner, conseiller, éduquer ou soigner avec la même conscience toutes les personnes, quelles que soient leurs origines, leurs mœurs, leur situation sociale ou leur religion.
Pour piquer en intramusculaire, il faut tendre la peau.
Il faut y aller droit, il faut y aller d'un coup.
Je sers de cobaye, non? Ou c'est la...
Mais vous en faites pas.
Je suis pas le premier.
Hein?
Je ne suis pas le premier.
Vous êtes mon premier.
Tous les jours, il y a quelque chose de différent. Tous les jours, il y avait des urgences. Tous les jours, il fallait s'attendre à quelque chose.
Il y a des moments où j'avais besoin de me poser pour qu'on réfléchisse, pour ne pas faire de bêtises.
J'ai regardé un peu votre parcours et il me semble que ce serait intéressant de retourner dans un service d'hospital.
En maternité?
Non.
Oh.
Oh bah, en gynéco. Moi,
Pourquoi vous avez choisi de venir en école d'infirmier à la base?
14, 15, 16, 17, 18, 19.
Attendez,
je veux voir un médecin ici.
Monsieur, je crois que votre femme vous a menti.
Alors, bien évidemment, au bloc aussi, il faudra retirer. Bon, vous n'avez pas de vernis, mais tout ce qui est bijoux.
Ça
Ça, j'étais tellement mal pendant ce stage que j'avais qu'une hâte que ça se finisse.
Bah là, j'ai bien fait de continuer parce qu'après, je vais être contente en 2 mois.
Ah, mais il y a de quoi être fière, hein.
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.
Voilà, de chaque instant, donc, de Nicolas Philibert. Je lis en introduction à votre propos, Louis-Marie, peut-être pour nous présenter ce film. West France, un témoignage précieux sur le quotidien des soignants. Femme actuelle, ce documentaire d'une éclatante simplicité rend un bel hommage au métier. Le Figaro, une immersion poignante à l'école d'infirmiers. Qu'est-ce que vous diriez pour présenter ce film et son propos ?
Vous avez tout dit, simplement dire un mot en plus à propos de Nicolas Philibert, son réalisateur.
Sur le film, j'ai pas tout dit. J'ai dit que c'était une classe d'infirmières et d'infirmiers filmés au plus près. C'est quand même court.
Mais, certes, mais en parlant de Philibert, on va développer son propos en le présentant un peu, parce que c'est un documentariste d'abord, un spécialiste de ce genre cinématographique particulier. Il y a des grands documentaristes et des moins grands. Lui fait partie des grands. Français, un peu comme Raymond Depardon, si on compare avec un autre Français. Et lui, ce qui l'intéresse toujours, c'est entrer dans les coulisses d'un apprentissage. Et là, c'est l'apprentissage médical, mais on se souvient du fameux « Être et avoir », qui est sans doute son documentaire le plus célèbre.
2002.
Il avait posé sa caméra dans une classe unique, perdue dans la campagne, et on avait vu au cours d'une année scolaire comment évoluaient les enfants. Eh bien, c'est la même chose. Il y avait eu aussi le Pays des Sourds. On va pas faire toutes les analogies.
Il avait obtenu un César, d'ailleurs, pour être et avoir.
Être et avoir, oui. Et bien là, il a placé sa caméra dans une école d'infirmiers et d'infirmières. Son objectif, c'est de montrer, de capturer le désir d'apprendre. Voilà. Je parlais de l'analogie avec ses films précédents, c'est ça, le désir d'apprendre, et en l'occurrence, pour ce film-ci, pour les infirmiers, le don de soi. Et le film est clairement composé de 3 parties. Une partie où on voit ses élèves infirmiers dans des cours théoriques. Ils apprennent des gestes aussi, théorie et la pratique, mais la pratique, c'est sur des mannequins. Et puis après, on les voit en situation, en stage. Et après, on les voit avec leurs formateurs parler de comment ils ont vécu les stages. Et c'est ces 3 parties. Alors, au début, on l'a entendu dans le bout de bande-annonce que vous avez diffusé tout à l'heure, que il y a des moments qui sont très drôles dans la formation, puisque c'est sûr, faire un massage cardiaque à un mannequin en caoutchouc, ou piquer une fesse en caoutchouc, c'est pas la même chose que piquer un vrai patient. Et petit à petit, on entre dans le film et on comprend, on va finir par toucher du doigt les difficultés auxquelles sont confrontés ces jeunes gens.
On en parlera peut-être après. Paul Dima, qu'est-ce qui vous a touché dans ce film ?
C'est l'extrême attention portée par le documentariste. Nicolas Philibert dit d'ailleurs avec humour qu'il a fait un stage en hôpital qui a été pour lui un temps de repérage. Alors, c'était pas pour penser un film, parce que il a eu une embolie qui l'a conduit donc aux urgences et puis dans un service de soins intensifs. Et à ce moment-là, ça rejoignait un projet qu'il avait de montrer la réalité de ce métier, de l'apprentissage de ce métier, et la confrontation à la souffrance, à la douleur, à la mort et aux soins. Et comment tout ça transforme quelqu'un, et il a voulu faire, et il a fait un film qui est très attentif à ce que deviennent les personnes qui se forment à ce métier-là.
Vous me disiez, en préparant l'émission, prendre soin et faire grandir. C'est-à-dire que le fait de prendre soin fait grandir ?
Oui, dans le propos, dans ce qu'il a observé de ce qu'il veut rendre, il dit d'ailleurs, c'est un hommage à des gens qui ont l'exigence de la maîtrise technique, mais aussi, et peut-être plus encore, du lien relationnel et du retour sur eux-mêmes, ce que ça leur fait vivre. Et on sait bien qu'actuellement, par rapport à ce que sont les hôpitaux et la rentabilité qu'on exige d'eux, qui vont être confrontés à une gestion difficile, liées au peu de temps dont ils disposent, pour à la fois exercer avec compétence et sécurité pour les malades leur métier, mais aussi faire autre chose que piquer les fesses et...
Alors on va écouter c'est l'extrait d'une interview de Nicolas Philibert qui revient justement sur, on va dire, son regard sur cette profession et surtout cette profession aujourd'hui, comme je le disais en introduction, qui est bien malmenée.
Je me suis plongé au milieu des étudiants, étudiantes en soins infirmiers, ce métier qui est curieusement à la fois... Les gens aiment les infirmiers, les infirmières, les respectent, on a tous une profonde estime pour ces gens-là, leur cran, leur... Et en même temps, c'est un métier malmené, mal payé souvent, difficile, éreintant, particulièrement exposé aujourd'hui, de moins en moins de personnel, des cadences de plus en plus difficiles. Qu'est-ce que c'est que prendre soin ? C'est prendre son temps souvent, mais ça c'est de moins en moins facile.
Tous les jours il y avait quelque chose de différent, tous les jours il y avait des urgences, tous les jours il fallait s'attendre à quelque chose.
Il y avait des moments où j'avais besoin de me poser pour qu'on réfléchisse, pour ne pas faire de bêtises.
Les infirmiers, les infirmières surtout dans les hôpitaux sont en grande difficulté, en souffrance souvent. Pas tous, heureusement. Mais les conditions de travail... ne vont pas en s'améliorant. On est dans l'ère du performatif, comme ça, hein, du management. Il faut être efficace.
Pour piquer en intramusculaire, il faut tendre la peau.
Il faut y aller droit, il faut y aller d'un coup. Je sers de
coup. Voilà, donc ça, c'était donc une interview du réalisateur Nicolas Philibert. Je reste juste pour faire écho à l'actualité. Je crois que c'était en avril dernier. Il y a eu de nombreuses manifestations des infirmiers et des infirmières en France. Je crois que c'était, 2016. Bref, en tout cas, ces derniers temps, il y a eu de nombreuses manifestations. On leur a promis des millions d'euros. J'ai noté à la faveur d'une manifestation quelques verbatims. Notre métier est en voie de disparition. Les patients devraient venir manifester avec nous. Et cette phrase qui est dure, on met nos diplômes en danger ainsi que les patients, ils devraient venir manifester avec nous car on leur impose des situations de maltraitance. Voilà, c'est touchant ce qu'il dit Nicolas Philibert. C'est vrai qu'en fait, qui n'aime pas les infirmiers en France ? Ça fait partie des métiers qui font l'unanimité, c'est comme les pompiers.
Voilà, les pompiers et les infirmiers. D'ailleurs, tous les enfants... réaliser leur rêve, la Terre serait un gigantesque terrain de football avec comme spectateurs des infirmiers et des pompiers.
Belle image.
Voilà, donc c'est de chaque instant de Nicolas Philibert. Vous voulez ajouter peut-être une dernière chose,
oui.
Paul ?
La façon dont Nicolas Philibert fait ses films, et celui-ci en particulier, il prend le temps. C'est-à-dire que son film, la façon même dont il est construit, dit quelque chose de sa façon de prendre soin de ce qu'il regarde. Et je trouve que ce film peut nous renvoyer à nous aussi comment on regarde. On dit, je connais. Les infirmiers, oui, je connais. C'est pas si simple. C'est-à-dire qu'on découvre une réalité plus complexe que les clichés sur les pompiers ou les infirmiers. Et on voit aussi les difficultés auxquelles ils s'affrontent. Donc il n'y a pas que la dimension économique et politique de leur place, mais qu'est-ce que c'est que prendre soin ? Eh bien, lui, dans sa façon de filmer, il prend soin de ceux qu'il montre. Et ça, c'est intéressant.
Oui, Marie Soler.
On le sent bien, là, dans le montage, on voit bien sa façon de... Il aime les gens qui filment et il ne montre pas ça n'importe comment. Et il les montre, c'est attachant, touchant, quand il y a les gestes techniques à faire et ils ont du mal à les faire. Et puis, il y a une scène qui m'a particulièrement touché, c'est quand un jeune stagiaire est dans un hôpital psychiatrique. Et il est assis à côté d'une patiente et il y a un dialogue entre ce futur infirmier et cette patiente qui est... Tout est là-dedans. Dans ces deux minutes de confrontation, on touche du doigt ce qu'il veut montrer et combien il aime ces gens.
Vous auriez pu rajouter instituteur, non ? Il n'y a pas des élèves, des enfants qui rêvent d'être instituteurs, maître ou maîtresse ? Parce que dans le civil, c'est votre métier.
Oui, c'est vrai. Mais non, ils en rêvent quand ils sont à l'école. Mais après ça passe. Je vais être maîtresse, souvent, ou maître. Mais non, c'est pompier et infirmier.
Merci. On va faire une première pause et puis on vous retrouve après pour parler donc des 400 coups de François Truffaut.
Ain't no use to sit and wonder why, babe. Doesn't matter anyhow. When the rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. And you're the reason that I'm traveling on. But don't think twice, it's alright. Take one breath. Turning on your light, babe. I'm on the dark side of the road. Still, I wish there was something you could do or say that would make me change my mind and stay. But we never really did that much talking anyway. So don't think twice, it's alright.
Vivante Église ce matin, donc le grand écran de Vivante Église avec autour du plateau pour rappel Paul Dima, Monsieur Cinéma au Cotopaïs, centre jésuite dans le sud-ouest et Louis-Marie Soler, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse le mercredi à cette même antenne à 19h émission cinéma, tous deux responsables de Ciné-Parole, donc ce ciné-club mensuel en lien avec le cinéma d'arrêt d'essai l'ABC à Toulouse. Deuxième film donc de cette émission, Les 400 coups de François Truffaut. Chef-d'œuvre. Je citerai juste, je ne sais pas si pour des chefs-d'œuvre il y a besoin de citer des critiques, mais quand même, Les Cahiers du cinéma, Les 400 coups, c'est mieux qu'un chef-d'œuvre, c'est un des films les plus originaux de la production française d'après-guerre. Le Monde, Les 400 coups sont un très beau film, ce n'est pas l'œuvre d'un fabricant ingénieux, mais d'un homme qui nous parle à cœur ouvert de lui-même, ou tout du moins de l'enfant qu'il fut. Et Libération, François Truffaut a fait un coup de maître. Je propose qu'on écoute la bande-annonce.
À propos, qu'est-ce qu'on fait du gosse là pendant les vacances?
Les colonies de vacances, c'est pas fait pour les caniches.
C'était ma mère, monsieur.
Et ta mère, qu'est-ce qu'elle a encore?
Elle est morte. Qu'est-ce que tu vas faire? De toute façon, moi, pour ce coup-là, je peux plus vivre avec mes parents. Il faut que je disparaisse, tu comprends?
Where is the father?
The father?
No, the father.
Father.
Fonce dans le choix, bah, avec un million, on se tire à la plage. On monte une affaire de bateau sans que personne ne s'occupe de rien de nous.
Qu'est-ce que tu as voulu dire dans ta lettre? Quand tu as écrit, on s'expliquera sur tout.
Ben, à cause de ma mauvaise conduite. Et puis pourquoi je travaille mal en classe?
Eh bien, dis-le-moi.
Parce que j'arrive pas à écouter. Et puis je voudrais quitter l'école pour gagner ma vie tout seul.
Pourquoi n'aimes-tu pas ta mère?
Parce que d'abord, j'étais en nourrice. Puis quand ils ont plus eu d'argent, ils m'ont mis chez ma grand-mère. Et puis je me suis aperçu que ma mère, elle m'aimait pas tellement. Elle me disputait toujours. Et puis pour rien, des petites affaires insignifiantes. Alors...
Voilà, cette bande-annonce de ce magnifique film que j'ai vu pour la première fois grâce à vous. Voilà, c'est vraiment des avantages de cette émission. Comment vous le présenteriez, monsieur cinéma de Radio Présence, les 400 coups?
Alors, c'est
coup de tonnerre dans l'histoire du cinéma français, c'est ça?
Ah, incontestablement, oui. Incontestablement, c'est un film qui a fait sensation à sa sortie, oui. Ça, c'est sûr. C'était en 59, on n'avait jamais vu de film comme ça. Alors, ça nous paraît...
À quoi ça ressemblait, les films, à l'époque? Et qu'est-ce qu'il y avait de si nouveau, en fait?
Ce qu'il y avait de nouveau, c'est que dans ces films, déjà, les gens parlaient comme dans la rue. Et parce que jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, jusqu'à la nouvelle vague, puisqu'il faut parler d'elle, c'était plutôt académique. C'était des films de réalisateurs, certes, mais c'était des films de producteurs, surtout, de scénaristes. Les mecs, l'expression était des gens de plume. On pense à Henri Janson, on pense forcément à Michel Audiard, mais Michel Audiard, lui aussi, il est au panthéon des scénaristes et surtout des dialoguistes. Et puis, il y avait les vedettes prenaient tout l'écran. Après, il fallait chercher qui était le réalisateur, il fallait chercher dans le générique qui avait réalisé le film. Et c'est ce que voulaient faire François Truffaut et puis ses petits camarades, Claude Chabrol et Jean-Luc Godard en l'occurrence, qui voulaient mettre en avant le réalisateur, parce que c'est lui qui racontait l'histoire, c'est lui qui la mettait en image, c'est lui qui dirigeait les acteurs, c'est lui qui voulait façonner son film. Hein. Il voulait être les artisans même de ce qu'on allait voir sur l'écran. Et quand on a vu ça, et puis quand on a vu ce jeune garçon, le fameux Antoine Doinel, Jean-Pierre Léo...
Celui qui joue François Truffaut, puisque c'est donc un récit autobiographique. Ou
oui, alors on dit plus ou moins. Il y a des effectivement, il y a quelque
des
chose
parallèles, de, en tout cas.
Des oui. parallèles en oui. tout cas. Oui, il a été, il a pas connu son père Truffaut oui. de la même façon. Il a eu une vie chaotique lui aussi. Il a eu des mailles à partir avec.
Il paraît que ça a tout à fait déplu à ses parents. En tout cas, preuve que oui. ça devait être un peu autobiographique au moment de sa sortie. En tout cas,
oui, c'est ça. Ils ont beaucoup toussé, oui.
C'est le moins, ils sont reconnus un peu, oui.
C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà ce qui faisait tout le charme et tout le côté novateur de ce cinéma, parce qu'on descendait dans la rue aussi. Ça aussi, on tournait la plupart des films, on les tournait en studio. Vous savez, quand on entend la fameuse réplique d'Arletty à Louis Jouvet, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère dans Hôtel du Nord? Le film, la scène qu'on voit, ils sont sur une écluse. Ben, ils sont sur une écluse qui a été reconstituée dans un studio de cinéma. C'est Alexandre Tronner, le grand décorateur, qui avait refait tout le canal, je crois que c'est le canal de Lourdes, qu'on fait un canal parisien, tout ce qu'on voit, tout le quartier, dans un studio, alors que la nouvelle vague descendait dans la rue.
Alors je propose qu'on écoute un deuxième extrait qui va nous mettre un peu plus dans l'ambiance et peut-être nous aider à comprendre ce film un peu à hauteur d'enfant, j'allais dire, ça sera plus tard, mais en tout cas nous aider à rentrer dans l'ambiance de ce film.
Ah, te voilà toi.
Alors, il suffit d'un devoir supplémentaire pour te rendre malade, hein? Et les parents tombent dans le panneau. Je serais curieux de savoir ce que tu leur as soutiré comme excuse, moi. Fais voir ton mot.
T'en ai pas, monsieur.
Ah, t'en as pas? Et tu crois que ça va se passer comme ça? Ce serait trop facile, mon ami.
Monsieur, c'était ma mère, monsieur.
Et ta mère, qu'est-ce qu'elle a encore?
Elle est morte.
Ah, fiche-toi. Excuse-moi, Monty, je pouvais pas savoir. Elle était malade?
Bah oui, monsieur.
Il fallait m'en parler. Faut toujours se confier à ses maîtres. Allez, rejoins tes camarades, va.
Qu'est-ce que t'as trouvé comme excuse? Oh, laisse-moi tranquille.
Alors, on va couper là. Donc, ce film donc, montre donc, cet enfant qui vit au milieu de parents, on va dire, assez mal aimants. Hein, je veux dire, qui alterne un peu parfois aussi le chaud et le froid avec cet enfant. Il dort quand même dans le couloir, il descend la poubelle tous les soirs. On me dirait que c'est pas ça qui va le tuer, mais en tout cas, sa vie familiale est compliquée.
Il n'y a aucun geste affectif.
C'est vrai qu'il n'y a, aucun geste de tendresse. On voit jamais sa mère l'embrasser.
Pas de tendresse,
son père le
serrer
dans les bras. Ouais, exactement. Et puis, donc, il commence à construire sa vie un peu tout seul. Qu'est-ce que ça vous inspire, Paul Dimain?
Alors, Truffaut en avait un peu assez des enfants qui, dans le cinéma un peu à la papa de l'époque, étaient des figurants de deuxième ou de troisième zone, qui étaient des petits diablotins ou des petits enfants bien sages, mais qui n'avaient pas d'existence. On les faisait jouer aux enfants. Là, ils s'intéressent à un enfant qui est en manque d'encadrement, en manque affectif, et qui essaie de se construire comme il peut. C'est un titi parisien. Et là, on voit, il pratique le mensonge pour attendrir son maître.
Il fugue.
Il a fait une fugue. Mais tout ça, ça dit un malaise. Et ce qui intéresse Truffaut, c'est de porter un regard bienveillant, presque de père aussi, sur cet enfant qu'il a été plus ou moins, on en parlait tout à l'heure. Et dire un petit peu ses manques et la difficulté de rentrer dans la préadolescence et l'adolescence. Et Truffaut disait, mais les enfants, les psychologues, les travailleurs sociaux connaissent, mais dans le cinéma, on ne connaît pas. Dans le cinéma, on ne connaît pas, ils n'ont pas de... Tandis que lui, Truffaut a mis en valeur, et par sa façon de filmer, et par le montage de son film, une vraie attention à l'évolution de cet enfant, sa difficulté à prendre sa place, son inventivité en même temps.
Un film à hauteur d'enfant, voilà, c'est ce que je disais. Moi, d'ailleurs, je crois que on trouve ça dans certains commentaires qui sont proposés sur certains DVD. C'est voilà, on est presque, oui, on est à sa hauteur, et on regarde du coup presque le monde des adultes de manière énigmatique en se disant, mais comment ça se fait qu'ils comprennent pas?
C'est ça, parce que Paul l'a bien souligné, l'enfant au cinéma, c'était un personnage secondaire. Et là, on a ses yeux et on voit ses préoccupations, on les touche du doigt. C'est quand même un grand bouleversement. Il a 14 ans. L'adolescence, c'est le passage difficile à l'âge adulte, et encore plus difficile pour lui dans la mesure où les adultes s'intéressent pas à lui, parce qu'il a pas de chance quand même entre des parents. Parce qu'en fait, il a perdu son père. C'est un beau-père. Sa mère, on l'a entendu dans l'extrait. Qu'est-ce qu'on va faire de lui pendant les vacances?
Il y a des choses encore pires dans le film.
Oui, mais bon, il y a ça. Ça veut dire qu'on s'en débarrasse. Et puis, il faut dire que aussi dans l'établissement scolaire, il a pas de chance, hein, parce qu'il tombe sur des profs qui sont pas très tendres avec lui non plus. Il fait beaucoup d'âneries, mais enfin, le traiter de cette façon, c'est une autre façon qu'on avait de s'occuper des enfants à l'époque. Mais ce qu'il faut pas négliger aussi, c'est que il y a l'histoire, mais il y a aussi la qualité de la raconter et surtout de la filmer. Les prises de vue sont magnifiques.
Très belle image.
Les images sont splendides, le noir et blanc est parfait. Ouais. Et puis il y a la musique aussi, celle de Jean Constantin, qui est parfaite dans l'illustration. Là, c'est un film, un modèle. C'est ce qui permet de dire, voilà, faire du cinéma, bah, ça peut être ça, c'est ça, oui.
On va écouter un deuxième extrait.
Pourquoi as-tu rapporté la machine ?
Oh, bah parce que, comme je pouvais pas la revendre, comme je pouvais rien en faire, moi j'ai eu peur, il a fait... Je sais pas, je l'ai rapporté, je sais pas pourquoi, comme ça.
Dis-moi, il paraît que tu as volé 10 000 francs à ta grand-mère.
Elle m'avait invité, c'était le jour de son anniversaire, et puis alors, comme elle est vieille, elle mange pas beaucoup, et puis elle garde tout son argent, elle en aurait pas eu besoin, elle allait bientôt mourir. Alors, comme je connaissais sa planque, j'étais lui faucher des ronds, quoi, je savais bien qu'elle s'en apercevrait pas. La preuve, c'est qu'elle s'en est pas aperçue. Elle m'avait offert un beau bouquin ce jour-là. Alors, ma mère, elle avait l'habitude de fouiller dans mes poches. Et le soir, j'avais mis mon pantalon sur mon lit, elle est sans doute venue. Puis elle a fauché les ronds, parce que le lendemain, je ne les ai plus trouvés. Puis elle m'en a parlé, alors j'étais bien forcée d'avouer que je les avais pris à ma grand-mère. Alors à ce moment-là, elle m'a confisqué le beau livre que ma grand-mère m'avait donné. Puis un jour, j'ai demandé, parce que je voulais le lire. Puis je me suis aperçue qu'elle l'avait revendu.
Tes parents disent que tu mens tout le temps.
Bah, je mens de temps en temps, quoi. Des fois, je leur dirais des choses qui seraient la vérité, ils me croiraient pas, alors je préfère dire des mensonges.
Pourquoi n'aimes-tu pas ta mère ?
Parce que d'abord, j'étais en nourrice, puis quand ils ont plus eu d'argent, ils m'ont mis chez ma grand-mère. Puis ma grand-mère, elle a vieilli, tout ça, elle pouvait plus me garder. Puis alors je suis venue chez mes parents à ce moment-là, mais j'avais déjà 8 ans, tout. Et puis je me suis aperçu que ma mère, elle m'aimait pas tellement, elle me disputait toujours, et puis pour rien, des petites affaires insignifiantes. Alors, aussi, genre, quand il y avait des scènes à la maison, j'ai entendu que ma mère, elle m'avait eu quand elle était... Elle m'avait eu fille-mère, quoi. Et puis, avec ma grand-mère aussi, elle s'est disputée une fois. Et j'ai su qu'elle avait voulu me faire avorter. Et puis si je suis née, c'était grâce à ma grand-mère.
Voilà, donc c'est filmé à un moment où il est mis dans une espèce de maison de redressement, le personnage principal, et c'est un entretien avec une psy. C'est une séquence en fait où on voit juste cet enfant derrière une table qui parle, c'est extraordinaire, il joue mais extraordinairement bien cet enfant.
C'était
sidérant.
Il a participé à un casting, forcément. Mmh. À noter que je crois qu'il y a des éditions DVD de plus ou moins bonne qualité. Il faut prendre celle où il y a les bonus et on voit les essais qu'il a fait. Il paraît qu'il était, enfin dans les essais, on voit qu'il était drôle, enfin naturellement bon comédien, Jean-Pierre Nayeau, naturellement. Et Paul quand il parle là, c'est saisissant. Quoi. C'est le naturel, la façon dont il vit tout ça.
Ça nous paraît tout à fait d'aujourd'hui. Mmh. C'est un film qui a 60 ans.
Oui.
Jamais on n'a entendu parler un enfant comme ça dans les films jusqu'à présent, avec les hésitations, les coupures, les changements de rythme. C'est d'un naturel confondant.
On est dans son cœur. Voilà, ça vous inspire d'autres choses. Moi, ça m'avait inspiré juste une chose. Peut-être, ça me faisait penser à Françoise Dolto, comme je vous le disais en préparant le film. Ça peut mettre aussi en perspective, c'est-à-dire que c'est aussi récemment qu'on a commencé à comprendre. Donc, c'était cette psychologue qui a aidé à faire prendre conscience que l'enfant est une personne, qu'il fallait parler vrai avec les enfants, que les enfants possèdent un langage qui leur est propre et que beaucoup de choses aussi se jouent dans le jeune âge, et explique bien des comportements ultérieurs, chose que probablement, je ne sais même pas si à la sortie du film, on savait ce genre de choses.
Oui, parce que là,
c'est comme une introduction presque.
Il dit de façon très très claire, ma mère m'a eu, elle était fille mère, et si je suis là, c'est parce que ma grand-mère l'a voulu.
Oui, c'est grâce à elle.
C'est grâce à elle.
Voilà, Les 400 coups de François Truffaut, magnifique film. On va faire une deuxième pause avec une musique extraite donc de ce film, et après notre chef-d'œuvre spirituel, Marie Hurtin.
Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le grand écran de Vivante Église, c'est pour rappel donc le thème de l'émission Vivante Église de ce jour, émission cinéma mensuelle, avec nos deux compères, Paul Dima, Monsieur Cinéma au Coteau Pays Centre Jésuite dans le Sud-Ouest, et Louis-Marie Seller, producteur donc de l'émission cinéma de Radio Présence, n'oubliez pas l'ouvreuse. Troisième film donc, Marie Heurtin. Marie Heurtin, c'est donc l'histoire d'une religieuse qui se lance dans un défi fou, qui est d'essayer d'accompagner une petite fille aveugle et sourde, qui est prise pour une débile et qui est en tout cas presque laissée à l'abandon par beaucoup sauf ses parents. Et cette religieuse va essayer d'apprivoiser cet enfant qui ressemble à un enfant sauvage. Très beau film donc de Jean-Pierre Améris. On va écouter la bande-annonce.
Aujourd'hui, j'ai rencontré une âme. Une âme toute petite, toute fragile. Une âme emprisonnée. Mais une âme que j'ai vue briller de mille feux à travers les barreaux de sa prison. Comment communiquer avec cette petite enfermée dans la nuit et le silence? Comment parvenir à lui parler, à l'écouter, ensemble? Comment est-ce de vivre dans l'obscurité la plus totale et le silence absolu?
Et comment vous y prendriez-vous?
La langue des signes.
Mais elle est aveugle.
Je lui ferai les signes dans la main.
Cette petite est sourde et aveugle de naissance. À force, son intelligence s'est certainement racornie.
Couteau. 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 Ma mère! Mais là, elle signe le mot couteau, ma mère.
Et avec vos problèmes de santé...
Mes poumons causeront certainement ma mort. Mais enfin, d'ici là... Je voudrais terminer ma tâche avant de quitter ce monde. Elle vous dit qu'elle est contente. Et qu'elle vous aime. Je suis tellement heureuse. Elle est ma joie. Elle est la fille de mon âme. La lumière de ma vie.
Voilà, donc Marie Heurtin, excusez-moi, j'ai été pris de court, donc de Jean-Pierre Améris. Je lis deux, trois critiques, comme il est de coutume. Ouest France, d'un sujet édifiant, Jean-Pierre Améris tire un récit d'une force bouleversante. Première, ce qui est beau, c'est l'obstination infatigable de l'éducatrice, ce rapport à la vie qui tient plus du sacré que du religieux et auquel Isabelle Carré, qui joue donc la religieuse, prête son énergie de douce tornade. Et Télérama, respectueux et tendre, cet éloge de la patience touche par ses partis pris esthétique. Le film a-t-il été salué, Jean-Louis Marie Seller, quand il est sorti comme un chef-d'œuvre spirituel, enfin peut-être pas évidemment, mais comme un chef-d'œuvre, parce que moi j'ai vu quelques critiques qui étaient, on va dire, moins élogieuses. Que dire de ce qu'on a dit de ce film?
Effectivement, le propos du film est difficile et délicat à traiter. Le rythme est lent.
Beaucoup de silence.
Plutôt monotone, mais ça participe de la part d'Améris de cette volonté de vraisemblance et de mettre le spectateur dans la même situation que les personnages du film, et en particulier que le personnage de Sœur Marguerite. Et c'est ce qui fait sa force, et c'est ce qui a plu. C'est-à-dire que y a pas mal de critiques qui ont été faites sur ce film, qui ont dit que c'était un film abouti et très bien fait, et les remarques les moins bonnes à propos du même film, c'est qu'il y a ce côté monotone. Mais il n'a pas été, descendu. On n'a pas tiré sur ce film à boulet rouge en disant que c'était un film raté, c'était un navet, ce qui n'est pas le cas du tout.
Jean-Pierre Améris, vous pouvez nous le situer. J'ai vu entre autres, donc c'est lui qui avait réalisé Les Émotifs Anonymes.
Oui.
Voilà. Est-ce que peut-être que certains l'ont vu.
Il aime beaucoup justement explorer le cœur, le cœur des gens et aller au plus profond. Il n'a pas fait que ça hein, d'ailleurs, mais on se souvient des Émotifs Anonymes, qui est ça la deuxième fois qu'il travaillait dans les Émotifs Anonymes avec Isabelle Carré, oui, qui joue le rôle de Sœur Marguerite, qui joue pour la troisième fois avec lui dans Marie Heurtin, donc qui joue le rôle de la douce tornade, comme vous l'avez appelé. C'est vrai que Elle est assez extraordinaire, cette femme, et cette actrice. Et Jean-Pierre Améris, donc, a quand même fait, a fait des films à gros budget, et avec de grosses distributions. Hein. Il a fait tourner notamment Gérard Depardieu. Et quand on fait tourner Gérard Depardieu, c'est pas toujours évident, pas toujours facile, mais on est sûr d'avoir les critiques et les spectateurs au rendez-vous. C'est pas ce qu'il cherche d'ailleurs, mais il aime confronter les gens à cette difficulté de la communication. Son dernier film, c'est Je vais mieux, et c'est dans Je vais mieux, il adapte un bouquin, l'histoire d'un homme qui a mal au dos et qui apprend, après avoir fait toutes les explorations fonctionnelles, que son mal de dos est psychologique.
Psychosomatique. Paul Dima.
Dans les personnages, les deux acteurs, donc, ou actrices, Isabelle Carré qui joue Sœur Marguerite, c'est intéressant de voir qu'il a fait appel à une jeune qui, elle, est sourde, est vraiment sourde.
Rien à rivoir.
C'est ça. À rien à rivoir.
Et qui n'est pas aveugle.
Qui n'est pas aveugle. Donc, elle a dû apprendre à se mettre dans la peau d'une sourde et aveugle. Et donc, on comprend que ça oblige le film. La communication est très sensorielle, à la fois tactile.
Alors, racontez peut-être cette scène où elle arrive donc dans cette institution religieuse et elle passe devant toutes les religieuses. Et racontez ce qu'elle fait pour faire connaissance, en fait, avec ces religieuses.
Alors, elle met la main. Elle prend leur visage dans ses mains et elle les découvre en faisant tous les contours du visage. Avec un recul des religieuses, et si ça nous arrive à nous, c'est pas la façon habituelle de prendre contact. Et bien elle, c'est sa façon d'entrer en contact.
Et on a l'impression qu'elle lit aussi un petit peu dans les cœurs en touchant les visages, parce qu'il y a une mère supérieure qui est un peu sèche, et quand elle touche son visage, elle pousse un petit cri, ce qui fait rire toutes les religieuses.
Oui. Parce que là, la mère supérieure, sous ses dehors, elle est dans une institution qui accueille des jeunes filles qui sont sourdes et muettes. Mais là, elle est prise, et donc elle a une volonté d'accueillir, de permettre, enfin d'élever, etc. Mais pas d'être touchée. Enfin, pas d'être touchée comme ça. Et elle se rétracte. Et c'est très intéressant parce que le film met en valeur que donc cette jeune, son père était complètement désemparé, il pensait qu'elle était débile, et il la confie, parce qu'il ne sait pas comment faire, à cette institution qui existe,
à Larnay. C'est ça ou la psychiatrie.
La psychiatrie, parce que voilà, parce qu'elle est débile. Et donc cette sœur, à bras le corps, c'est le moment de le dire, prend cette situation et s'y investit complètement en disant « Mais non, comme on a entendu dans l'extrait, j'ai rencontré une âme, c'est-à-dire un corps habité par un souffle. » Et tout le film, il y a un critique qui dit « Il s'intéresse plus à l'âme que... enfin, il s'intéresse plus au physique qu'au spirituel. » Ben, je trouve que c'est un peu le contraire. Dans ce film, le spirituel passe par le physique. C'est-à-dire que c'est toucher, se laisser toucher, donner du sens au toucher.
Elles se battent souvent.
Elles se battent, il y a des empoignades terribles, parce que c'est très difficile pour cette jeune de franchir le pas et la découverte. Et c'est de fait, ça s'est passé comme ça dans l'histoire.
Donc oui, il faut dire, ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est une histoire vraie.
C'est une histoire vraie.
Jean-Pierre Améris raconte qu'il a exhumé cette histoire vraie qui était mal connue, y compris du monde des sourds et des aveugles. Donc de cette,
tout à fait, il a trouvé ça dans des archives. Et cette sœur a inventé le langage des signes, mais non pas gestué puisqu'elle est aveugle, mais d'associer un mouvement sur le doigt, de couper avec l'objet couteau. Et il a fallu tout un temps, et le film est très long sur... Parce qu'elle désespère, elle comprend pas du tout ce que fait la religieuse à lui frotter le doigt et à lui présenter un couteau. Et pour elle, ça n'a aucun rapport, jusqu'au jour où elle découvre que le geste dit quelque chose. Et alors là, c'est... Après, c'est le début de sa progression.
Alors, il y a d'autres choses à dire, peut-être pour vous relancer. Moi, ça m'a fait penser à une parole qui est dans l'Évangile. C'est l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 14, verset 12. En vérité, parole de Jésus. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. C'est une phrase qui peut paraître parfois énigmatique pour les croyants. Je ne sais pas si c'est de plus grandes. Mais en tout cas, on peut penser à ça. Alors, on voit jamais cette religieuse prier, mais cette religieuse, par son entreprise, par son amour et sa persévérance, quelque part, elle fait que cet enfant va finir par voir et par entendre d'une certaine manière. Et donc, comment ne pas penser à l'Évangile et à Jésus qui touchait les aveugles parfois avec sa salive, et les gens voyaient et les sourds entendaient. Est-ce que ça vous a fait penser à ça, Paul Dimain ?
Tout à fait. Et là, on voit, c'est dans la qualité du rapport établi par le corps, mais par l'attention aussi que les aveugles perçoivent très bien, peut-être mieux que les voyants, qu'il y a quelque chose qui passe entre elles de très très fort, mais qui va ébranler aussi la sœur Marguerite. C'est-à-dire que en même temps, elle permet à cette jeune fille de passer d'un statut de débile à éclore comme femme, jeune femme libre, et qui entre en communication.
Elle dit « c'est la fille de mon âme ».
C'est la fille de mon âme, mais il va falloir aussi qu'elle apprenne. Et c'est là une tâche pas facile pour les éducateurs, les parents le savent bien. On n'éduque pas pour soi ou avoir du pouvoir, mais pour que le jeune prenne son envol et son autonomie. Et elle va avoir de la peine un petit peu à laisser la place venir, et elle meurt à la fin. Et là, la jeune vient rendre hommage sur sa tombe. Bon, alors c'est un petit peu romantique, il y a des pétales de rose qui tombent, mais c'est très très beau. C'est-à-dire qu'elle vient reconnaître sur la tombe de cette sœur qu'elle lui a donné la vie.
Louis-Marie, est-ce que ça vous inspire un autre commentaire? Sinon, il faudrait qu'on parle rapidement du film de Wim Wenders.
Oui, qui va sortir là. Mais ce qui est intéressant, pour revenir un peu, pour compléter ce que disait Paul, c'est que c'est à partir d'un sens tout à fait ordinaire, finalement. Des cinq sens, le toucher, c'est le plus ordinaire. Hein? Et il me semble, en fait, c'est une analyse...
C'est plus immédiat, en tout cas.
Oui, c'est ça. C'est dans ce sens-là. C'est pour ça que les bébés prennent et puissent le fourrer dans la bouche, tout ce qu'ils attrapent. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Mais ça, c'est une parenthèse. Mais c'est ça. Je parlais du rythme et c'est cette vraisemblance, les temps forts qui vont amener ce récit de vie, la visite des parents, quand même. Les parents vont venir et ils vont voir toucher eux aussi du doigt l'évolution de leur fille, et c'est assez extraordinaire. Et le fait que ce petit animal sauvage s'apprivoise et se laisse apprivoiser. Et vous parliez tout à l'heure des bagarres, et finalement c'est normal qu'il y ait des bagarres, parce que nous, on se jette des trucs à la tête, on s'engueule. Elle peut pas, elle voit pas, et elle entend pas. Alors le seul moyen de se disputer avec quelqu'un, c'est de le frapper, quoi.
Voilà, Marie Hurtin, très beau film à voir, de Jean-Pierre Améris. Pour finir, Paul et Louis-Marie, vous vouliez nous parler d'un film à paraître. Il nous reste deux petites minutes. Je ne sais pas si on en avait parlé à cette antenne, certainement vous, en tout cas dans vos chroniques cinéma, Louis-Marie. C'est un film donc, sur le pape François de Wim Wenders, qui a été présenté au Festival de Cannes, dernier Festival de Cannes. Je sais que même Monseigneur Le Gall, l'archevêque de Toulouse, a assisté à son avant-première. Pourquoi est-ce que vous vouliez nous en parler, Paul?
Wim Wenders n'est pas n'importe qui dans le domaine du cinéma. Et il a reçu une commande du Vatican, par le responsable de la communication du Vatican, qui lui a donné carte blanche. Et vraiment, il a eu carte blanche pour filmer. Il dit d'ailleurs, j'ai pas fait un film sur le pape François, j'ai fait un film avec le pape François. Alors il a utilisé aussi des images faites par d'autres personnes, il a fait le montage, mais il a dit « j'ai eu une liberté totale ». Et le titre du film, le pape François, « Un homme de parole ». Et Wim Wenders a été très touché parce qu'il l'a
entendu.
Vu et entendu du pape.
Eh ben, on en parlera, c'est promis. Merci beaucoup. On n'annonce pas le prochain Ciné-Parole parce que ça n'a pas encore recommencé. Donc on le fera la prochaine fois. Merci beaucoup d'être venu ce matin au micro de Vivante Église et rendez-vous le mois prochain. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.